Alors, nos enfants nous quittent. Je vais vous demander de tourner dans vos Bibles dans Genèse 3, s'il vous plaît. Genèse 3. Est-ce que tout le monde a reçu son petit feuillet bleu? Sinon, levez la main, notre frère Richard va se faire plaisir d'aller vous le porter. Alors, vous pourrez suivre et il y a certaines notes dessus. Mais avant de commencer, on va se courber et on va prier notre grand Dieu. Notre Père céleste, Dieu suprême, Fils béni et Esprit éternel. Nous t'adorons, toi Dieu, en trois personnes, d'une seule essence, parfait à tous égards, le seul vrai Dieu. Nos cœurs sont remplis de gratitude pour la rédemption que tu nous as acquise en Christ, le Fils, et que tu nous as appliquée par le Saint-Esprit. Aussi indignes que nous soyons, tu nous as accueillis dans ton royaume éternel pour nous faire partager ta gloire indescriptible. Merci à nouveau, Père, de ce que la plénitude de ta grâce, tu nous as aimés dans cette plénitude-là. Et tu as envoyé ton Fils pour nous racheter. Et Seigneur Jésus, bien qu'existant éternellement en forme de Dieu, tu n'as pas estimé devoir t'accrocher à cette position. Tu t'es humilié toi-même. Tu as pris la forme d'un serviteur. Tu t'es rendu semblable aux hommes. Comme homme, tu t'es fait serviteur, obéissant à la volonté du Père, jusqu'à subir la mort sur la croix. Et ce sacrifice unique a expié à jamais nos péchés. Il nous a couverts de l'indispensable vêtement sans tache de ta parfaite justice. Saint-Esprit, toi aussi, tu nous as aimés de toute éternité et désormais tu établis ta demeure permanente dans nos cœurs, faisant couler ta vie et ta puissance à travers nous, produisant un fruit abondant et nous conformant à l'image de Christ. Père, nous venons à toi, Dieu trinitaire, couronné dans nos vies, maître de l'univers, nous te demandons humblement de nous fortifier là où nous sommes faibles, à commencer par le culte que nous te rendons ce matin. Louons l'Éternel, chantons à l'Éternel un cantique nouveau, chantons ses louanges dans l'assemblée des fidèles, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire et qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exécuter le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louons l'Éternel. Ce matin, c'est un peu la suite de la semaine passée. C'est la partie 2. Il y a une partie 3 puis il y a une partie 4. Est-ce que vous vous souvenez, la semaine passée, quel était le titre du message? Fais attention. Quand ça va bien, fais attention. « Vous ne mourrez sûrement pas, dit Satan dans Genèse 3 au verset 4. » Ces paroles-là de Satan, Satan parle à Ève au sujet de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien, ces paroles-là contredisent, sont le contraire directement de ce que Dieu avait dit. En plus, Satan l'a convaincu qu'il n'y aurait aucune répercussions sur sa décision ou sur sa désobéissance. Il n'y aura aucune répercussion. Et vous savez qu'en 2019, Satan utilise toujours le même mensonge pour nous tromper en voulant nous persuader que la parole de Dieu ne peut pas être digne de confiance. Fais pas confiance à la Bible, ça a été écrit par des hommes. Et savez-vous, c'est quoi la grande déception? Le péché n'a pas de conséquences. Donc, nous devons tous apprendre à résister aux tromperies du diable et à obéir à Dieu. Vous savez, l'une des leçons les plus importantes que Dieu a pour nous se trouve dans le premier livre de la Bible. Et ce livre-là, c'est la Genèse, évidemment. Après l'histoire, je vais dire comme mon frère José, mirobolante de la création de Dieu, suit ce qu'on appelle une description de la grande tromperie qui a affecté chaque être humain à partir de ce moment-là. Quand Satan a trompé Ève et qu'elle et Adam ont désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde et ce qui arrive, et nous faisons face depuis aux conséquences, à de grandes déceptions. Tromper, c'est mentir. C'est induire en erreur. C'est désinformer, autrement dit, donner la mauvaise information. C'est égarer, nous envoyer loin de la vérité. Et c'est la méthode que Satan utilise pour entraîner toute la race humaine dans le péché. C'est son but. C'est ce qu'il veut faire. Et il continue encore aujourd'hui, il va continuer jusqu'à la fin, Armageddon. Et il va utiliser cette tactique-là en voulant nous convaincre d'une idée contraire à celle du Seigneur. Premier point que je veux développer avec vous ce matin, c'est la grande déception. Est-ce qu'on peut vraiment, réfléchissons là, pécher sans qu'il y ait de conséquences? J'espère que personne ne va lever la main, là, mais ça a-tu arrivé à quelqu'un qui n'ait pas de conséquences au péché? Dieu avait donné à Adam et Ève un ordre qui est clair. Et ça se trouve dans Genèse 2, les versets 16 et 17. Okay? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, « De n'importe quel arbre du jardin, vous pouvez manger librement. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. » Et je me souviens, quand j'étais dans l'Église réformée, on avait fait une étude, justement, sur ce texte-là, et surtout sur cette phrase-là qui dit « Vous mourrez sûrement. » Vous savez, le récit de la Genèse, surtout à partir du chapitre 3 et les versets 1 à 6 qui nous concernent ce matin, bien, témoigne du fait que personne ne peut pécher sans qu'il y ait de conséquences. Il va y en avoir tout le temps des conséquences. Même si on essaye de se cacher, de faire le moins de bruit possible, Dieu, il nous voit, Dieu nous entend. Maintenant, on va parler du tentateur et on va revenir dans Genèse 3, au verset 1, qui dit « Maintenant, le serpent était plus rusé que n'importe quelle bête du champ que le Seigneur Dieu avait fait. » Ce serpent-là, il n'était pas comme les autres, pas comme les serpents qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a-tu qui aiment ça, voir des serpents? C'est rare, en tout cas. J'en ai connu, là, mais on dirait qu'on est repoussé. Mais ce serpent-là, il y avait quelque chose de différent. Probablement qu'il se tenait debout. Et peut-être même qu'il était attrayant. Pourquoi? Parce que Ève ne l'a pas repoussé. Nous, aujourd'hui, mais Ève, elle ne l'a pas repoussé quand il a commencé à jaser avec elle. Et c'est après, ce n'est qu'après avoir été maudit par Dieu parce que Satan avait participé à la chute de l'homme que le serpent était condamné à ramper sur son ventre dans la poussière. Le serpent, c'est une créature qui a été permise lors de la création. Elle a été permise de rester dans le jardin pour tester Adam et Ève. C'est Satan qui s'est probablement incorporé dans cet animal-là. Et savez-vous quoi? Satan est toujours présent dans le monde. Son but, c'est de convaincre, dans ce temps-là, c'était de convaincre Ève, mais c'est de nous convaincre que ce que Dieu dit, c'est incorrect. Prenez votre Bible. Faites un X dessus. Tout ce qui est dit là-dedans est incorrect. C'est ce que Satan veut que tu crois. C'est rempli d'erreurs, ça. Ça se contredit. C'est hier, deux jeunes filles, je vous dis, sont pas. C'est des ados. C'est des mormons. Ils cognent à ma porte pour savoir si je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire. Et là, je leur ai dit, mais non, ça ne m'intéresse pas, je suis pasteur d'une église évangélique. Je suis un chrétien évangélique. Mais est-ce qu'on peut te laisser quelque chose? Non. Bien gentil, hein? Puis moi aussi, j'étais bien gentil. Mais ce qui me préoccupe toujours, c'est de voir le zèle. Imaginez-vous, c'est des ados. Il faut avoir du front, faire le tour. Et ils m'ont demandé c'est quoi qui était la différence, et je leur ai expliqué concernant certaines doctrines. Ça n'a pas l'air de les avoir ébranlés, pantoute. C'est dommage d'avoir autant de zèle puis de proclamer une fausseté. Là, ils font le tour de Hawkesbury. Garantie qu'il y en a qui vont tomber dans le piège. Pourtant, c'est une religion. Une religion d'hommes et non pas une foi. Dans Apocalypse 12, verset 9, Satan est appelé le grand dragon. Hein, le serpent ancien qui est appelé le diable et Satan qui trompe le monde. C'est le père du mensonge. Non, son but, ni sa tactique, rien de ça a changé. Il veut s'opposer à Dieu. Il ment continuellement en essayant de tromper l'humanité, en lui faisant croire qu'il n'y a pas de conséquences au péché. On va parler troisièmement de la tentation. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Et même au-delà de ce qu'éventuellement ils auraient pu vouloir. Il y avait une seule restriction que Dieu avait donnée, et c'est exactement sur quoi Satan s'est concentré quand il a demandé à Ève. En effet, Dieu a-t-il dit, « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » Qu'est-ce qu'il essaye de faire, là? Il essaye de mettre le doute. Dieu, as-tu vraiment dit ça? Voyons donc, il ne peut pas avoir dit ça. T'es sûr? Dieu, tu dis dans sa parole telle affaire. Tu ne connaîtras pas l'adultère. Je peux continuer. As-tu vraiment dit ça? Et là, Ève répond, « Du fruit des arbres du jardin, au verset 2 et 3, nous pouvons manger. Mais à partir du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas de lui ou ne le toucherez pas ou vous mourrez. » Ce que Dieu voulait, là, c'est que Ève désire ce qu'elle n'avait pas. On est-tu comme ça un peu, nous autres? Hein? On a des désirs pour des choses qu'on n'a pas. Je ne suis pas tout seul, en tout cas. Ensuite, Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il contredit directement le Seigneur en disant, « Vous ne mourrez sûrement pas. » Ben, c'est pas vrai ce que Dieu a dit. Verset 4. Ben non. Vous ne mourrez pas. Oubliez pas, elle est séduite. Et là, Satan souligne quelque chose d'autre que Ève manquait. Regardez bien le verset 5. « Car Dieu sait que dans le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Dans le paradis, il n'avait pas besoin de connaître le bien et le mal. Il était dans un environnement parfait. Et dès que Ève commence à considérer l'arbre interdit, imaginez-vous là, la progression du péché. Hein? On considère la chose. Ève remarque ceci. La femme vit que l'arbre était, au verset 6, là, était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Wow! Wow! Et Satan, il utilise la même approche aujourd'hui. Il essaye de nous amener à nous concentrer sur ce qu'on n'a pas. Oh, que j'aimerais ça avoir ce type de véhicule-là. Ce genre des livres chrétiens, en tout cas, ou guitare, parce que moi, je joue la guitare. J'aimerais ça. Je ne l'ai pas, celle-là, hein, mère jeune? Mais oui, je ne l'ai pas. J'aimerais ça l'avoir. Joue! Satan, il met dans ta tête la même approche. Il veut que tu te concentres sur ce que tu n'as pas puis que tu aimerais posséder. Il veut qu'on doute de ce que Dieu a dit dans sa parole et qu'on puisse désirer une expérience qui stimulera et qui satisfera nos sens. Quand Dieu parle à des jeunes là, de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Je ne ferai pas un cours de préparation au mariage, là, mais je vais vous dire une chose. Quand Satan veut t'attirer vers ça, il y a quelque chose qui va satisfaire tes sens. Mais après ça, il y a une conséquence. Satan veut qu'on doute de ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est pourquoi certaines personnes, c'est malheureux, choisissent dans la Bible ce qu'elle veut bien croire. Ah, moi, ce passage-là, il est beau. « Ah, ça, c'est pas correct. Hein? » Ils veulent un Dieu d'amour. Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Mais pas, ils veulent pas un Dieu qui les restreint de quelque chose que ce soit. Empêche-moi pas. Retiens-moi pas. Ou un Dieu qui les avertit des conséquences de leur désobéissance. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu haït le péché. Et faites attention quand on dit « Oui, mais Dieu aime le pécheur. » Oui, il aime le pécheur repentant. Pas le pécheur qui continue à pécher. Dieu haït avec le... Si vous faites la recherche dans le grec avec le mot, c'est, ou en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est vraiment une haine, vraiment une haine. Et juste pour vous le dire, c'est que le pécheur non repentant, où est-ce qu'il va? En enfer. Maintenant, parlons des tactiques du diable. La tromperie de Satan est de nature progressive. Ça commence par le doute. D'abord, il a conduit Ève à remettre en question la parole de Dieu. As-tu vraiment dit ça? Ensuite arrive le démenti, c'est-à-dire que le doute conduit à la négation de la vérité. C'est pas vrai ce que Dieu dit. Arrive ensuite la tromperie. Une fois que nous nions la vérité de la parole de Dieu, on se dirige quoi? Vers la tromperie complète. On embarque les deux pieds dedans concernant la nature de Dieu et ses commandements. C'est de la foutaise que la Bible dit. Il me prive de connaître de quoi? Et là arrive la désobéissance. Là, j'embarque dedans. On fait ce que Dieu a interdit parce qu'on ne le croit pas. Et enfin, la destruction. On subit les conséquences dévastatrices du péché à cause de notre désobéissance. Vous savez, Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va masquer ses déceptions dans des beaux emballages qui font appel à nos sens. Ça vient nous stimuler. On a un désir naturel. Et Dieu connaît toutes nos faiblesses. Et là, Satan va promettre ensuite, il n'y a pas de conséquences. Faites-en pas, il n'y en a pas de conséquences. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine passée. Quand Ève a mangé du fruit interdit, et puis que Dieu avait dit que si tu en manges, tu vas mourir, Adam est là, il dit, elle n'est pas morte. Pourquoi elle n'en mangera pas, moi non plus? C'est pas vrai ce que Dieu a dit. Et là, ça rentre. Satan dit, il n'y en a pas de conséquences, garde. Peut-être pas tout de suite. Satan nie que Dieu a dit clairement que tout se terminera dans la destruction si tu continues. Et avant de céder aux tentations du diable, on devrait toujours considérer les conséquences qui inévitablement vont suivre. Ça ne prend pas de temps, ça va arriver. Et la dernière chose à laquelle Satan veut que nous réfléchissions, c'est l'issue, la fin dévastatrice du péché. Il ne veut pas que tu penses à ça. Ben non, pense-y pas. Vis maintenant, c'est le temps. Profite! C'est pourquoi Satan va toujours tenter de minimiser notre péché. Ah, c'est pas un gros péché, voyons. C'est tout petit, ça. Et ce qu'il veut, et ce qu'il fait, c'est qu'il prétend que personne n'est parfait. Et ça, je l'ai entendu souvent. Je ne suis pas parfait. Je suis un pécheur. On est également dans l'erreur à cause de sa tromperie. Quand on se concentre seulement sur la bonté de Dieu. C'est vrai que Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Et la justice de Dieu et la sainteté de Dieu ne tolèrent pas le péché, et cette justice-là et cette sainteté-là exigent que les conséquences suivent le péché. Rappelez-vous, Dieu haït le péché. Quand l'Esprit Saint contrôle nos vies, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous rappelle le résultat douloureux de la désobéissance. Tu te rappelles la dernière fois, qu'est-ce qui est arrivé quand tu as fait ça? Pourquoi? Parce que l'Esprit-Saint, c'est lui la vérité. C'est lui notre protecteur. Et les gens qui vivent dans la justice et l'obéissance devant Dieu peuvent reconnaître le péché. On le sait, hein? On peut reconnaître la tromperie et savoir ce qui est bien et ce qui est mal. La parole de Dieu nous conduit dans la vérité et nous met en garde contre la nature autodestructrice et nuisible du péché. On se détruit soi-même. Les commandements du Seigneur ne sont pas durs. Les commandements du Seigneur sont aimants. Dieu sait que nous menons une guerre spirituelle. Il le sait, ça. Satan et ses anges sont autour de nous. Ils veulent nous faire douter. Et on mène cette guerre-là contre Satan et Dieu veut nous protéger de ces dommages-là que la désobéissance et le péché causeront dans nos vies. Et notre obéissance à Dieu et à sa parole, c'est notre protection. C'est un témoignage pour ceux qui nous entourent. C'est ça exactement qu'on veut démontrer cette année avec l'évangélisation. On veut être des témoignages vivants. Alexis en a parlé. Il y a un but, c'est de répandre cette parole-là. Pas où ce qui n'est pas connu. Il veut revenir un jour, puis il veut agir en conséquence. Toute forme de désobéissance, frères et sœurs, dans nos vies se traduit, c'est-à-dire dans nos âmes, par un sentiment de distance. Quand on pêche, là, voyons, Dieu est donc bien rendu loin. Non, c'est toi qui s'es distancé de Dieu. Hein? Et si elle n'est pas corrigée, si on ne se repent pas de nos péchés, ça conduit à la séparation, excusez-moi, et à un déclin spirituel. Ta vie spirituelle, c'est ça qu'elle fait. Tu te demandes pourquoi tu ne pries plus. Tu te demandes pourquoi que, ouf, à l'église une fois par mois, c'est correct. Toutes les excuses sont bonnes. Et là, ce qui arrive, c'est que notre esprit devient endurci aux choses de Dieu. On n'est plus sensible. La repentance, elle n'existe plus. Et à ce stade-là, le Seigneur peut utiliser la calamité, c'est-à-dire un malheur. Si tu es un enfant de Dieu, là, puis que tu plonges de même, puis que tu ne veux pas te redresser, fais attention. Dieu peut utiliser le malheur pour nous ramener en communion avec lui. Allez pas juger le monde parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans leur vie. C'est pas ça que je veux dire. Mais ça peut arriver. Maintenant, la tragédie, comme je l'ai dit, l'histoire d'Adam et Ève a commencé avec la perfection et elle s'est terminée en tragédie. Adam et Ève ont entendu la vérité de Dieu, mais ils ont écouté Satan. Leur innocence a été transformée en honte. Ils ont vu qu'ils étaient nus, puis ça, ils ont eu honte. Ils ont connu la culpabilité, la honte et la peur du péché. Ils se sont cachés de Dieu lorsqu'ils ont entendu sa voix. Ils se sont blâmés l'un l'autre, puis le serpent, pour leur péché. Enfin, ils ont fait l'expérience du jugement de Dieu et de leur propre perte. Je vais terminer en disant ceci. Comme à toutes les semaines, je vais vous encourager et vous l'avez sur votre petit bulletin bleu. C'est quoi je réfléchis cette semaine? À quoi je médite cette semaine sur ce que j'ai entendu ce matin? Comment Satan essaie-t-il de te tenter en voulant détourner ton attention? Je l'ai dit tantôt, il connaît tes points faibles. Et il sait comment le faire. Es-tu capable d'identifier tes points faibles? Puis essayer de te fortifier. Quelles sont les conséquences, deuxièmement, du péché? As-tu vécu des conséquences désastreuses du péché qui te rappellent que le danger de reprendre le même chemin? Et là, tu as peut-être un mauvais goût dans la bouche, là. Tu ne veux pas y retourner, mais Satan va encore essayer de te comprendre. Ben non, là, ça n'arrivera plus. Ensuite, pourquoi il est si important de ne pas faire ce premier pas-là dans le péché? Oui, c'est vrai qu'on est des pécheurs, mais pourquoi continuer? Pourquoi faire encore un premier pas dans le péché pour aller vers le pire? Et finalement, comment as-tu vu un péché ouvrir la porte à plus de péchés? C'est ça le danger d'ouvrir la porte à un péché, parce que ça conduit à d'autres péchés, d'autres conséquences qui sont désastreuses. Donc, c'est le temps de faire un bon examen de conscience cette semaine. Ça replace les idées à la bonne place. Et puis, à partir de maintenant, je vais être sur mes gardes. Puis la grande déception, celle que je sais qu'il y a des conséquences, même si Satan me dit qu'il n'y en a pas, bien, je vais comprendre qu'il y en a des conséquences au péché. Puis il y a de l'espoir pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur ce matin. Et le passage que je vais utiliser, c'est dans Romains 6, le verset 23. C'est le passage qui est un des passages qui m'a touché lors de ma conversion. Parce que le salaire, ce que tu mérites du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le cadeau de Dieu qui est gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.